La carte Visa Orange Monnaie Côte d'Ivoire, valable partout dans la zone UMOA, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Alexis Fricker.
Bonjour et bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez, appel sur l'actualité. Le débat, ce sera dans une demi-heure. Aujourd'hui, on va parler de l'Algérie et plus particulièrement de cette lettre dans laquelle Abdelaziz Bouteflika, en début de semaine, a confirmé qu'il allait bien prolonger son mandat au-delà du 28 avril. C'est la date qui est prévue par la Constitution, date à laquelle se termine en principe le quatrième mandat du président algérien. La raison qu'il avance, c'est d'assurer la transition pour mettre en place cette conférence nationale qu'il a promise afin de réviser la Constitution et d'organiser de nouvelles élections. Mais pour le moment, on n'a aucune date pour ce scrutin et cela attise la colère et la contestation de la rue. Cela renforce aussi le sentiment que le clan Bouteflika veut jouer la montre et qu'il n'entend pas vraiment le peuple. On en parlera ensemble dans une heure. Un numéro de téléphone 33 9 693 693 70, mais aussi le mail et les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Mais avant cela, on va parler des questions d'actualité qui vous ont intéressé cette semaine. Et on va commencer par la Syrie, le groupe État islamique dans sa dernière poche de résistance, Barouz. En ligne avec nous, Taïrou, bonjour.
Bonjour Alexis, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous nous appelez de Bamako, je vous écoute Taïrou.
Une dernière offensive a été lancée par les forces démocratiques syriennes sur Baghouz, dernier territoire de l'État islamique en Syrie. L'assaut final a été lancé depuis février dernier. Pourquoi les forces démocratiques syriennes mettent autant de temps pour reprendre ce territoire?
Vous restez en ligne avec nous, Taïrou, pour y répondre. Tout d'abord avec nous, Oriane Verdier, bonjour.
Bonjour.
Du service international de RFI. Alors pourquoi autant de temps pour faire tomber les djihadistes à Barouz?
Oui, c'est vrai que ça peut sembler surprenant. Les soldats eux-mêmes ont exprimé leur surprise. Ils ont été surpris notamment par le nombre de personnes qui étaient regroupées dans ce petit territoire. Ces dernières années, au fur et à mesure de leur recul, les combattants de l'État islamique ont emmené avec eux leurs familles, mais aussi des civils qui servent aujourd'hui de boucliers humains. Les forces démocratiques syriennes espèrent également retrouver vivants leurs camarades faits prisonniers par l'État islamique. Donc tout cela empêche, dans une certaine mesure, les avions de la coalition de bombarder sans discernement. Un autre point, depuis le lancement de l'opération, on a vu des dizaines de milliers de civils sortir. Cela ralentit les opérations. À chaque fois, il faut cesser les combats, organiser l'extraction, puis recevoir la foule et organiser un triage entre civils et djihadistes. Tout cela prend bien sûr du temps.
Et puis je précise que les FDS, vous m'interrompez si je me trompe, parle de près de 70 000 personnes, à peu près 70 000 civils qui seraient sortis justement de Barouz jusqu'à présent, hein, c'est ça?
Oui, exactement.
Alors il y a un autre point de difficulté, Oriane, c'est que les djihadistes sont tout simplement prêts à mourir.
Oui, exactement. Ils l'ont d'ailleurs réaffirmé il n'y a pas si longtemps dans une vidéo. Ils ne se rendront pas. Alors face aux kamikazes, aux mines, aux snipers, à l'artillerie de l'État islamique, les forces kurdes et arabes préfèrent avancer lentement et épargner des vies. Voilà des années que ces troupes se battent contre les djihadistes. Elles ont déjà perdu beaucoup d'hommes et de femmes. Pour finir, un petit rappel. Quand la bataille pour la reprise de Mossoul en Irak a commencé en octobre 2016, le président américain Barack Obama lui-même a annoncé que Mossoul serait libéré avant le début de l'année 2017. La victoire a finalement été annoncée avec plus de 6 mois de retard le 10 juillet 2017.
On retrouve Taïrou. Vous êtes toujours avec nous. Votre deuxième question, Taïrou.
Cette dernière offensive permettra-t-elle d'éliminer définitivement l'État islamique en Syrie?
Alors est-ce que le groupe État islamique pourrait tout simplement rayer de la carte en Syrie?
Alors ce qui est certain, c'est que normalement cette offensive permettra d'éliminer le califat d'État islamique en Syrie et en Irak. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de territoire soumis à l'autorité de l'organisation État islamique. L'organisation va sûrement donc retourner à sa forme d'origine, celle d'une guérilla qui organise des opérations sporadiques. Alors votre question est primordiale car il est dangereux d'imaginer que l'État islamique ne fera plus partie des problématiques de la Syrie. On le le voit déjà très clairement dans l'Irak voisin. Malgré la victoire annoncée des forces irakiennes sur l'organisation État islamique, des groupes combattants continuent d'agir. Ces groupes sont pour l'instant situés dans des zones de flou territorial et gouvernemental. C'est pourquoi il est primordial d'avoir une réflexion profonde sur l'après-guerre et la stabilisation de la zone.
Et puis dans le cas particulier de la Syrie, Oriane, le pays fait aussi face à d'autres conflits actifs.
Oui, l'organisation État islamique n'est pas la seule menace à la stabilité du pays. C'est justement dans ce chaos que le groupe s'est développé. Jusqu'à aujourd'hui, on considérait l'État islamique comme l'ennemi commun. Cette guerre a obligé à ralentir et geler d'autres conflits. Une fois ce combat terminé, ces derniers risquent de ressurgir. Un exemple, le régime syrien de Bachar al-Assad et la Turquie ont tous deux ouvertement exprimé leur volonté de reprendre le contrôle des territoires aujourd'hui sous l'autorité des Kurdes. Or, ces derniers ont arrêté de nombreux djihadistes. Qu'adviendra-t-il donc de ces prisonniers si l'autorité qui les a combattus et qui les détient est renversée? Enfin, même si l'État islamique disparaissait pour un temps, la menace djihadiste persisterait. À Idlib, le groupe Hayat Tahrir al-Sham, issu d'Al-Qaïda, a pris le contrôle de la région. Plus au nord, d'autres groupes islamistes gèrent la région d'Afrin. Ils sont soutenus, mais difficilement contrôlés par la Turquie.
Merci Oriane Verdier, merci également à Taïrou qui nous appelait de Bamako. Merci d'avoir participé à l'émission. Il est 9h16. Une deuxième question à présent, elle concerne la République démocratique du Congo. En ligne avec nous, Parfait, bonjour.
Bonjour Alexis, bonjour Alexis.
Vous nous appelez de Lubumbashi, Parfait, je vous écoute, allez-y.
Ok, j'ai une question, il y a trois questions plutôt à poser. Après la tenue de l'élection controversée des sénateurs, le président Tshisekedi a suspendu l'installation de la chambre haute et il a même reporté l'élection des gouverneurs. Les mesures ont été prises lors de la réunion interinstitutionnelle le lundi dernier.
Alors parfait, je vais vous interrompre, Parfait, je vais juste reformuler ce que vous avez dit parce que la liaison est pas excellente avec Lubumbashi. Donc vous, ce qui vous intéresse, c'est ces soupçons de corruption sur les dernières élections sénatoriales. Le nouveau président Tshisekedi a suspendu l'installation de la Chambre haute, avez-vous dit, ça soulève des critiques. Première de vos questions, en quoi cela pose-t-il problème? Et surtout après, quel type de sanctions pourrait être adoptée contre les députés qui auraient accepté de l'argent en échange de leur voix? Et est-ce qu'un changement des modes de scrutin des sénatoriales est envisageable? Pour répondre à vos questions, Parfait, nous sommes maintenant en ligne avec Patient Ligodi. Bonjour Patient.
Bonjour Alexis, bonjour Parfait.
Vous êtes à Kinshasa pour RFI. Alors on va d'abord revenir sur trois décisions qui ont été annoncées par la présidence de la République.
Oui, déjà, il faut dire qu'au total, trois décisions ont été annoncées par la présidence de la République. L'élection de gouverneur prévue à la fin de ces mois est renvoyée à une date ultérieure. L'installation de sénateurs élus est suspendue et il a été demandé au procureur général de la République, le PGR, près la Cour de cassation, d'ouvrir deux enquêtes sur ces allégations de corruption qui concernent les députés provinciaux. Et hier, mercredi, les services procureurs ont annoncé que des enquêtes ont débuté et les auditions vont s'accélérer dans le but de ne pas retarder davantage la rentrée parlementaire au Sénat. Mais concrètement, pour répondre à la question, les députés qui seraient reconnus coupables risquent de perdre leur mandat au profit de leurs suppléants. C'est ce que demande d'ailleurs l'UDPS, le parti de Félix Tshisekedi.
Et est-ce qu'un changement des modes de scrutin des sénatoriales désormais pourrait être envisagé?
Oui, c'est envisageable. D'ailleurs, le président de la République répondant à une de nos questions sur cette affaire avait clairement envisagé, mais évidemment, il faudra, dans ces cas, revoir le cadre légal qui organise les élections. Et si la révision est adoptée, il faudra attendre 2023 lors de prochaines élections pour que tout cela soit applicable.
Merci Patient Ligodi d'avoir été en ligne avec nous de Kinshasa. 9h20, on continue l'émission. Je vous rappelle le thème du débat dans 20 minutes, ce sera consacré à l'Algérie aujourd'hui. Nous parlerons de cette lettre d'Abdelaziz Bouteflika publiée en début de semaine, lettre dans laquelle le président algérien confirme qu'il restera bien au pouvoir après la date prévue par la Constitution pour la fin de son quatrième mandat, après donc le 28 avril, mais pour le moment, nous n'avons aucune date annoncée pour le prochain scrutin. Un numéro de téléphone pour nous joindre, le 33 9 693 693 70, mais également par mail et sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Notamment les questions d'actualité qui vous ont intéressé cette semaine, on continue à les traiter. Et maintenant nous allons parler des 5 ans du 5e anniversaire de l'annexion de la Crimée par la Russie, et nous sommes en ligne avec Kaïta. Bonjour. Allô Kaïta. Kaïta, qu'on n'arrive pas à joindre pour le moment, on va le prendre en ligne dans quelques instants dès que la liaison téléphonique sera rétablie avec lui. On va passer à la question que j'avais prévue ultérieurement, qui concerne le naufrage récent du Grande America, ce grand navire au large de La Rochelle, à 330 km environ au large des côtes françaises. Et c'est ce qui vous a intéressé cette semaine, Moussa. Vous nous appelez de Bamako. Bonjour.
Bonjour Alexis.
Alors,
le grand navire Grande America de Grimaldi a sombré non loin de la côte française avec plusieurs tonnes d'hydrocarbures.
Oui, hein, c'était le 12 mars. Je précise que c'était le 12 mars, donc au large de La Rochelle plus précisément. Quelles sont vos questions? Votre première question, Moussa.
Ma première question était, connaît-on la cause du naufrage?
Alors, On va vous garder en ligne, Moussa. Vous avez une seconde question. On vous interrogera plus tard. Mais tout d'abord, nous sommes en ligne pour répondre à votre interrogation avec Christine Bossard. Bonjour, madame. Christine Bossard, porte-parole de l'ONG Robin des Bois, ONG de protection de l'homme et de l'environnement. Qu'est-ce qui a causé le naufrage du Grande America? Est-ce qu'on sait exactement pourquoi le bateau a coulé, Christine Bossard?
Alors, pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que le bateau a coulé suite à deux incendies qui l'ont déséquilibré, et il a été impossible de d'éteindre l'incendie d'abord et de le récupérer. Donc, il y a eu deux incendies. Un premier incendie dans les ponts du bateau à l'intérieur, suivi d'un deuxième incendie parce que la coque du bateau était chaude. Des conteneurs qui étaient sur le pont ont pris feu aussi. Donc c'est suite à deux incendies de cargaison sur le bateau qui sont pour l'instant pas encore déterminés.
Et il y avait également d'autres conteneurs, hein. Il y a ces incendies-là donc qui ont causé le naufrage du navire. Il y a également des conteneurs qui étaient là, et on sait qu'ils contiennent des matières dangereuses. Christine Bossard, est-ce qu'on en sait plus sur la nature de ces matières dangereuses?
Alors, on a eu une première communication des autorités françaises qui nous ont dit qu'il y avait 45 conteneurs de matières dangereuses, dont des corrosifs, de l'acide sulfurique, de l'acide chlorhydrique. On n'a pas encore le détail complet. Il y a encore une réunion aujourd'hui d'information de la préfecture qui pourrait nous en dire plus.
Alors on va prendre Christine Bossard, notre auditeur Moussa, qui est resté en ligne avec nous. Moussa, vous avez une seconde question, je vous écoute.
Effectivement.
Allez-y.
Quel est le risque de pollution? Peut-on craindre une marée noire?
Merci Moussa. Alors est-ce que les risques de pollution sont importants? On sait qu'il y a deux nappes d'hydrocarbures, en tout cas qui étaient bien visibles il y a une semaine. Où est-ce que ça en est, Christine Bossard?
Alors écoutez, oui, bien sûr, il y a un risque de pollution, puisqu'un bateau, ça marche pas à l'eau, ça marche au fioul. Donc il y a du fioul qui s'est échappé du bateau, il y a des nappes qui dérivent. Il y avait 2200 tonnes de fioul de propulsion à bord encore du bateau qui dérivent, qui ont déjà fait un tiers du chemin. Mais ça, c'est la pollution qui est visible, qui va arriver sur les côtes, dont tout le monde va parler. Mais il y a une deuxième pollution qui est très importante, c'est la cargaison. Parce qu'il faut bien voir que ce bateau au fond de l'eau, maintenant, c'est une décharge sous-marine. C'est une véritable casse auto. Il y a 2200 voitures avec leur carburant, leur batterie, leur essence, leur peinture, avec des pneus, etc., qui sont une pollution qui ne sera pas visible, mais qui est une pollution importante pour l'environnement marin. Et celle-là, il ne faut pas l'oublier.
Et vous avez justement, vous, au niveau de l'ONG Robin des Bois, porté plainte justement, déposé une plainte concernant cette pollution-là?
Absolument, absolument. Quand il y a un bateau comme ça qui a un incident, qui coule, qui perd des conteneurs, nous on porte plainte pour pollution et abandon de déchets parce qu'on considère que c'est pas la fatalité, ces accidents ne sont pas une fatalité, mais sont dus à des fautes humaines d'inconséquence, de légèreté en ce qui concerne le contrôle des cargaisons, le contrôle des navires. Donc oui, on a porté plainte aujourd'hui contre l'armateur et contre toute personne qui pourrait être responsable de ces incendies et de cette pollution.
Et je précise également, merci Christine Bossard d'avoir été avec nous, que votre ONG Robin des Bois souhaite que la préfecture maritime de l'Atlantique obtienne la liste complète des marchandises et des matières dangereuses embarquées à bord du Grande America, l'obtienne donc de l'armateur du navire. Il est 9h25. Une dernière question qui vous a intéressé cette semaine, je vous en parlais tout à l'heure. On a retrouvé Keïta qui est en ligne avec nous. Keïta, vous vous intéressez aux 5 ans, au 5e anniversaire de l'annexion par la Russie de la Crimée. Bonjour.
Bonjour.
Alors, je vous écoute. Première question, Keïta.
Vladimir Poutine était en Crimée lundi pour célébrer le 5e rattachement de la région à la Russie.
Oui, alors votre question.
Depuis le rattachement de la région à la Russie, les conditions de vie ont-elles changé en Crimée?
Alors, pour y répondre, Igor Delanoé est avec nous. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Directeur adjoint de l'Observatoire franco-russe de Moscou. Depuis 5 ans, est-ce que les conditions de vie en Crimée ont été modifiées, ont-elles été améliorées ou au contraire se sont-elles dégradées?
Alors on peut dire que d'une manière générale, elles ne se sont pas dégradées. Il y a eu des améliorations, mais comparativement à aux sommes d'argent investies par la Russie depuis l'annexion, ces améliorations sont assez maigres. Depuis 2014, on va dire en 4 ans, entre 2014 et 2018, la Russie a investi en gros environ 20 milliards d'euros pour développer les infrastructures de la Crimée et je dirais développer d'une manière générale le niveau de vie dans cette péninsule.
Ça se traduit comment?
Alors il y a eu des infrastructures assez intéressantes, il y a eu évidemment le fameux pont de Crimée que tout le monde connaît, qui a été construit. Il y a un projet d'autoroute pour relier ce pont ensuite jusqu'à la capitale administrative de la Crimée à Simferopol. Il y a des projets liés au développement d'infrastructures électriques et énergétiques aussi en Crimée pour remettre à niveau d'une manière générale les infrastructures de la péninsule qui ont été quand même très fortement délaissées entre 1991 et 2014 par l'Ukraine. Il y a des régions qui s'en sortent mieux que d'autres en Crimée, enfin des parties de la péninsule qui s'en sortent mieux que d'autres, comme par exemple le sud et le sud-est, puisque ce sont des régions très touristiques et très fréquentées par les touristes russes. Et depuis l'annexion, les salaires ont été augmentés, mais les prix ont aussi suivi et ont aussi augmenté. Ce qui fait que d'une manière générale, le tableau est assez contrasté. À mon avis, il faudra encore attendre quelques années pour que tous ces investissements portent leurs fruits et qu'on commence à constater de véritables améliorations.
On retrouve en ligne Keïta avec nous. Vous avez une seconde question, Keïta, allez-y.
Allô?
Oui, allô, Keïta, je vous écoute, oui, seconde question.
Oui, je suis en ligne avec vous.
Allez-y, je vous écoute pour votre seconde question. Bon, alors, ce que vous voulez nous dire, Keïta, je m'excuse, je vous coupe, parce que la liaison téléphonique avec vous est difficile. Voilà, vous nous demandez quelle est la réaction aujourd'hui des autorités ukrainiennes concernant l'annexion de la Crimée et les commémorations par la Russie ces derniers jours. Igor Delanoé, comment Kiev a-t-elle réagi?
Bon, ces réactions sont évidemment extrêmement négatives, puisque je rappelle qu'en Ukraine, on considère non pas la Crimée comme un territoire annexé, mais comme un territoire temporairement occupé. C'est-à-dire que c'est un territoire qui a vocation à revenir dans le giron ukrainien un jour ou un autre. Donc il y a une forme de revanchisme qui s'est installée depuis 2014 avec un objectif ultime qui serait de ramener la Crimée dans le giron de l'Ukraine. Bon, évidemment, c'est un objectif que certains qualifient de mythique, en quelque sorte, qui n'arrivera jamais, puisque personne n'entend faire la guerre à la Russie pour récupérer la Crimée, à part à Kiev, certaines personnalités politiques qui, évidemment, revendiquent cet objectif.
Bah, le président, encore cette semaine, ou le ministre des Affaires étrangères, disent très clairement qu'après les élections, ils vont faire tout leur possible pour que la Crimée revienne à l'Ukraine.
revient d'Ukraine. Évidemment, alors comme vous l'avez rappelé, il y a un contexte d'élection, puisque le 31 mars se tiendra le premier tour d'élection présidentielle en Ukraine. Mais certains candidats ont un discours plutôt en rupture. Par exemple, Yulia Tymoshenko, qui occupait des fonctions éminentes en Ukraine dans les années fin des années 2000, qui a déclaré il y a quelques jours, par exemple, qu'il serait vain de se battre pour ramener la Crimée dans le giron ukrainien.
Merci.
Et qu'il vaut mieux trouver d'autres moyens de discuter, notamment avec les Russes.
Merci, Gordelanoé, d'avoir été en ligne avec nous. Il est 9h30 à Paris.